Alice de Chambrier, Éminet. Il avait plu tout le jour. Le gros nuage se traînait encore sur les flancs sombres de l'Herzégovine, et le chemin pierreux conduisant à une vallée qui confinait à la frontière turque était détrempé par l'humidité. Le silence n'était troublé que par le son lointain d'une cascade descendant vers la plaine et le bruissement monotone des gouttes d'eau qui s'échappaient des branches. Soudain, des pas pressés résonnèrent dans le lointain et se rapprochèrent peu à peu. Bientôt, un homme apparut à l'un des contours de la route. Il était grand et fort et portait le costume des montagnards herzégoviniens. Il marchait rapidement en s'aidant à peine d'un gourdin de bois de chêne. Cet homme s'appelait Ricardo Domirgi. Il habitait avec sa femme et ses deux enfants une ferme située dans cette haute vallée. Dans le pays, il jouissait d'une haute considération, et à bien des lieux à la ronde, s'il survenait une contestation entre les habitants de la contrée, c'était à Ricardo que l'on s'en remettait pour trancher la question. Et toujours, son bon sens et sa manière de voir clair et élevé savait concilier et apaiser les réclamations des plaignants et des accusés. Sa famille comptait parmi les anciennes de l'Herzégovine, et cela, joint au prestige que lui valait sa belle figure et son ferme caractère, lui donnait une autorité bienfaisante sur ses compatriotes. Dans son enfance, il avait reçu une certaine instruction qu'il cherchait à conserver au milieu de la vie un peu rude qu'il menait dans sa demeure isolée. Ce soir-là, il revenait de la ville la plus proche, cependant distante de plusieurs lieues. Il y avait heureusement terminé des affaires importantes, et c'était d'un cœur joyeux qu'il hâtait le pas pour se retrouver quelques instants plus tôt au milieu des siens. Soudain, comme il passait près d'un gros chêne, il crut voir quelqu'un assis au pied du tronc. Il s'approcha et reconnut avec étonnement que c'était une jeune fille, presque une enfant. Il l'interpella. « Mais que fais-tu dans ce lieu à ces heures ?» L'inconnu bondit sur ses pieds avec un geste de biche effarouché et fit un pas en arrière. « Ce que je fais, dit-elle, rien, j'attends. Tu attends et quoi donc ?»« La mort ?» reprit-elle de sa voix un peu basse mais harmonieuse. « La mort, c'est la seule chose sur laquelle je puisse désormais compter ?» Ricardo se sentit ému. Ces paroles avaient été prononcées sans emphase, mais avec un sentiment de profonde douleur et de résolution implacable. Il posa la main sur l'épaule de l'infortuné. « À ton âge, jeune fille, de telles pensées ne sont pas permises. Il faut vivre et ne pas songer à mourir. » Elle eut un geste de découragement. « Vivre ? À quoi bon, lorsqu'on est seul, sans parents, sans famille, sans amis, exposé à tous les dangers, on n'a que la mort pour refuge. Et tu n'as donc personne à qui demander asile ?
Non.
Et comment t'appelles-tu ?
Éminet.
Puis reculant soudain, elle ajouta :
Laisse-moi seulement. Regagne ton logis où tu es sans doute impatiemment attendu. Avant que le jour luise sur la montagne, je me serai endormi du sommeil éternel.
Ricardo l'interrompit. Viens avec moi, Éminet. Ma protection du moins ne te manquera pas. Il s'arrêta, le regard de la jeune fille était fixé sur lui, et malgré l'obscurité, il le sentait, et en éprouvait une impression étrange.
« Allah t'envoie, dit-elle simplement, commande. Éminet, ta servante. »
Ils marchèrent longtemps en silence. Ricardo, ayant remarqué la peine qu'Éminet avait à le suivre, passa doucement la main de la jeune fille sous son bras afin de lui faciliter la marche.
Il ne la questionna pas, se réservant de l'interroger plus tard. Mais sa bonté et la douceur avec laquelle il s'était intéressé à la faible et malheureuse créature lui avaient déjà gagné tout entière cette âme ardente et farouche. Au bout de 2 heures, pendant lesquelles Ricardo craignit à chaque instant de voir sa frêle compagne perdre connaissance, une petite lumière se montra dans l'obscurité. Elle sortait de la demeure du montagnard. La maison de Ricardo occupait l'extrémité orientale de la haute vallée dont il a été déjà question. Au sud, elle s'adossait à une paroi de rochers fort élevée et avait ainsi devant elle au nord toute la largeur du plateau, un bel espace découvert et verdoyant, borné vis-à-vis par des bois épais qui couvraient tout le versant de la montagne opposée. Ricardo fut bientôt sur le seuil. Des cris joyeux saluèrent son entrée. Dobronia, sa jeune femme, quitta vivement le foyer où elle préparait le repas du soir et vint le recevoir avec un doux sourire. Les enfants se jetèrent dans ses bras, même le chien qui sommeillait sur la natte témoigna par un aboiement et quelques hochements de queue le plaisir que le retour de son maître lui causait. « Je vous apporte une surprise, » dit Ricardo, après avoir rendu au sien les marques d'affection qu'il en recevait. Éminée, pâle et tremblante, était restée dissimulée dans l'ombre de la porte. Il la prit par la main et la fit avancer de quelques pas jusqu'à ce que les rayons de la lampe tombassent en plein sur elle. Il ne l'avait vue que dans les lueurs ternes de la nuit tombante et il eut peine à retenir un cri d'admiration. Il se trouvait devant une grande et belle créature, dont le costume, bien que mouillé et souillé par la boue, paraissait encore d'une extrême richesse. Elle pouvait avoir 15 à 16 ans. Sa figure, à l'ovale ravissant, était d'une blancheur mate qui faisait ressortir la pourpre de ses lèvres. Ses grands yeux noirs avaient des reflets oranges. On eût dit une étincelle d'or sur du velours sombre. Sa chevelure, mal retenue par un peigne incrusté de pierreries, tombait en ondes de jais jusqu'à l'ourlet de sa tunique. Étonnée, presque intimidée, Dobronia regardait Éminée. Celle-ci se tourna vers Ricardo. Ta demeure est le séjour du bonheur. Je n'y apporterai que ma tristesse. Non, laisse-moi retourner dans la forêt. On m'y trouvera morte demain. Sois bénie pour les bonnes paroles que tu m'as adressées. Elle avait déjà fait un pas en arrière. Ricardo l'arrêta. Pauvre enfant, la douleur t'égare. Reste avec nous. Il la conduisit vers la table et la plaça sur le banc rustique. Puis les deux époux assis à côté d'elle lui prodiguèrent leurs caresses et leurs soins comme un doux oiseau blessé par la tempête. Éminée se laissait faire. Les yeux à demi fermés, elle s'abandonnait avec délice à ce bien-être nouveau. Puis bientôt, appuyée contre l'épaule de Dobronia, elle tomba dans un profond sommeil. Lorsque la jeune fille se réveilla le lendemain matin, un rayon de soleil dansait dans la chambre et mettait une auréole sur la tête blonde de son hôtesse qui travaillait près de la fenêtre. Elle était bien jolie, Dobrovnia, avec ses grands yeux bleus si clairs et si doux, et elle paraissait si bonne. Comme ses dents blanches brillaient lorsqu'elle souriait aux 2 enfants qui jouaient autour d'elle. Les vêtements que la jeune fille portait la veille séchaient près du feu et avaient été remplacés par d'autres plus propres et plus chauds. Éminée contemplait avec bonheur ce paisible tableau. Il lui semblait cependant qu'il y manquait quelque chose. Était-ce un rêve que cet homme à la figure noble et pure, qui la veille l'avait arraché à la mort par sa compassion et ses bonnes paroles? Le petit garçon remarqua le premier que l'étrangère ne dormait plus. Il courut d'annoncer cette nouvelle à sa mère. Dobrania s'approcha. « As-tu bien dormi, ma fille ?» Emina était déjà debout, ramenant à grand-peine ses cheveux sous son peigne. Sans répondre, elle vint à la jeune femme et lui baisa les mains. Celle-ci lui souriait affectueusement. « Tu me parais un peu remise, il te faut maintenant manger quelque chose, tu dois éprouver le besoin. » Yéminet n'avait pas le moindre appétit, mais comme sa bienfaitrice insistait, elle accepta uniquement pour lui faire plaisir. Soudain, une voix joyeuse retentit derrière la porte. Un frisson de bonheur traversa l'âme de la jeune fille. Elle se leva machinalement. Rigardo était là, près d'elle, et lui tendait la main. « Je venais voir comment Dobrovnia te soignait, mon enfant. Oh, tu me sembles mieux ce matin. » « As-tu déjà fait connaissance avec les lutins de la maison ?» Et Rigardo étendit les bras et enferma comme dans une prison les deux bambins qui riaient follement et faisaient de vains efforts pour se dégager. Le père contemplait avec un bonheur mêlé d'orgueil et les têtes bouclées, l'une blonde comme les épis mûrs, l'autre brune avec des teintes cuivrées. « Voici le démon de la maison, » dit-il au bout d'un instant en désignant la fillette. « C'est Maruccia, et celui-ci c'est le bon génie, n'est-ce pas, Ino ?» Et il tendait son visage au baiser des enfants qui se pendaient à son cou avec des transports de joie. Rigardo rendit la liberté au petit captif, et Dobrovnia, comprenant que son mari désirait causer seul avec l'étrangère, les emmena dehors. Lorsqu'ils furent loin, Rigardo amena sa protégée sous le grand jour de la fenêtre et la regarda bien en face. « Il faut me dire maintenant qui tu es et d'où tu viens, Éminet. » Elle ne répondit pas. « Eh bien, » ajouta-t-il d'un ton un peu sévère après un instant de silence. Elle s'agenouilla devant lui. « Maître, pardonne-moi, je ne puis te le raconter, mais je te le jure, je ne déshonore pas ton toit. Si pourtant un seul soupçon entrait dans ton cœur à mon égard, dis-le-moi, je partirai tout de suite et pour toujours. Tu m'as secouru et recueilli, tu as été bon pour moi, tu peux maintenant me mépriser et me rejeter, je t'en bénirai pas moins jusqu'à ma dernière heure. » Domirji fut touché de cette humilité et de cette douleur. Du reste, les paroles de la pauvre enfant avaient un cachet de vérité auquel il était impossible de ne pas croire. Il releva la jeune fille, prosternée à ses pieds. « J'ai confiance en toi, Éminet. Demeure auprès de nous aussi longtemps que tu voudras. » Elle joignit les mains et chancela, ce bonheur l'éblouissait. Désormais, son existence se résumerait en une seule pensée, celle de rendre un jour à cet homme quelque chose de ce qu'il lui donnait. « Qu'Allah te récompense !» murmura-t-elle doucement. Ce nom d'Allah, prononcé pour la seconde fois, frappa Domirji. Il reprit « Tu es mort, Métan ?» Éminet eut peur. La pensée que Rigardo la renverrait, parce qu'elle n'était pas chrétienne, lui traversa l'esprit, mais elle n'essaya pas de nier, elle baissa la tête et attendit. L'expression du montagnard l'eût vite rassurée, mais elle n'osait le regarder. « Tu te convertiras, » dit-il. Un soupir de soulagement s'échappa du cœur de la jeune Turque. Sa figure s'illumina. « Ô maître, c'est comme tu voudras. » Que lui importait d'être chrétienne ou mahométane, pourvu qu'il lui fût permis de vivre auprès de son bienfaiteur et de lui donner un jour une preuve éclatante de son affection. Les jours s'écoulaient. Éminet vivait heureuse et tranquille dans la maison de son sauveur. Les enfants l'adoraient et Dobrovnia disait en riant qu'elle n'avait plus qu'à se croiser les bras et faire la grande dame. Tant et bien géniait Éminet à la servir, à l'aider dans tous les travaux du ménage. Quelquefois, cependant, au milieu de son activité presque fébrile, il prenait à la jeune fille des accès soudains de rêverie. Alors, elle regardait de loin et, sans se mêler à eux, Rigardo et sa famille, qui riaient et causaient ensemble. Une douleur étrange la mordait au cœur et elle se retirait, les yeux pleins de larmes brûlantes, dans l'endroit le plus sombre de la salle. L'affection que Domenici lui avait inspirée dès leur première rencontre continuait de grandir. Le cœur farouche et passionné de la Turque s'était laissé entièrement subjuguer par cette nature forte et franche, à la fois douce et virile. Rigardo lui apparaissait comme un être d'une essence supérieure auquel il était impossible de résister. Sur un désir de lui, elle eut tout bravé, mais il ne réclamait jamais rien d'elle. Il la traitait plutôt comme un hôte aimé. Cela ne pouvait suffire à Eminet. Elle portait envie à Marangella, la petite servante, qui recevait des ordres du maître. Et un jour, que le valet d'écurie s'était fortement blessé à la main en défendant Maruccia comme contre un chat sauvage, elle pleura de n'avoir pas été à la place du jeune homme pour rendre ce service à son idole. Elle ne pouvait se contenter d'une reconnaissance passive et eût voulu le lui prouver d'une façon extraordinaire, mais comment? L'occasion ne s'en offrait pas. Tous ces sentiments encore vagues, il est vrai, s'agitaient dans l'esprit de la jeune fille et provoquaient chez elle ces tristesses subites et inexpliquées qui la saisissaient parfois. Rigardo, cependant, s'occupait beaucoup d'elle. Il apprenait lui-même à lire et à écrire à son fils et voulut qu'Eminet partageât ses leçons. Mais là encore, il la traitait autrement qu'Ino. Si l'enfant, trop étourdi ou trop paresseux, ne contenait pas son maître, celui-ci s'impatientait et le grondait. Quelquefois même, il allait jusqu'à le frapper. Avec Eminet, au contraire, il avait toujours une manière amicale. S'il la reprenait, c'était le plus doucement possible. Il faut dire aussi qu'elle se donnait une peine infinie pour bien faire, et qu'à force d'apprendre et de désirer le contenter, elle s'embrouillait parfois complètement. Rigardo l'avait peut-être compris, mais il semblait à la bizarre enfant que s'il l'eût traité autrement et même vertement grondé, cela aurait été une preuve qu'il s'intéressait davantage à elle. Deux fois chaque semaine, il l'envoyait chez le pope du village le plus rapproché. Eminet écoutait ses instructions avec une profonde attention. Elle avait souvent grand-peine à débrouiller dans sa tête des enseignements si nouveaux pour elle. Mais, puisque ses croyances étaient celles de Ricardo, elle voulait les partager pour faire comme lui, pour être aussi bonne que lui, et pour se trouver quelque jour au ciel avec lui. Un après-midi, Dobrovnia achevait quelques travaux intérieurs. Eminet travaillait devant la maison, les enfants jouaient autour d'elle. Ino vint avec un geste caressant appuyer sa tête blonde contre la sienne. « Écoute donc, Eminet, je demandais à papa pourquoi il me grondait si fort quand je savais rien à nos leçons tant qu'il ne disait pas un mot à toi. » Eminet tressaillit. « Et qu'a-t-il répondu ?» L'enfant riait. Ben, il m'a répondu que Maruccia et moi étions des bambins, ces petites choses, et qu'il pouvait faire de nous ce qu'il voulait, tandis que toi, tu étais une belle étrangère qui retrouverait probablement un jour sa famille, et qu'il fallait traiter avec plus d'égard et de respect. Et puis il a encore dit que tu travaillais mieux que moi, que tu étais la meilleure élève, qu'il t'aimait beaucoup, oh, bien d'autres choses pareilles. Mais pourquoi fais-tu cette figure, Eminet, qu'as-tu? La jeune fille avait changé de couleur. Sa tête renversée s'appuyait à la muraille. Les yeux à demi fermés, elle essayait en vain de refouler la douleur qu'elle sentait bouillonner en son âme, ainsi qu'un flot de lave incandescente. Étrangère, oh, ce mot seul l'avait frappée. Elle ne gardait pas le souvenir du reste. Maruccia l'embrassait. Méchant Ino, t'as fait de la peine à Éminet, comme t'es mauvais. »
Ino, qui chérissait la jeune fille, se récria.
« Non, j'ai rien dit de méchant. J'ai répété les paroles de papa, voilà tout. »
Mais Marouchia insistait. Le petit garçon se fâcha et tous deux finirent par en venir aux mains, ce qu'ils s'étaient encore jamais vu depuis qu'ils existaient. Des pleurs bruyants éclatèrent. Éminet n'entendait rien. Doronia apparut sur le seuil de la porte et regarda une seconde fois la scène. Elle eut un geste de mécontentement en s'adressant à la Turque. « Éminet, mais comment laisses-tu des enfants se battre de la sorte ? Leur père va rentrer, il serait triste de les voir en un pareil état. » La jeune fille se leva en chancelant et sépara les combattants. Au même moment, Rigardeau apparut au haut du sentier qui menait à son habitation. Il s'informa des causes du débat, mais les explications furent si embrouillées qu'il n'y comprit rien. Il interrogea Éminet qui lui fit une réponse impossible. Il se mit à rire. « Ah, tu es de nouveau dans tes rêves, mon enfant !» Puis il entoura de son bras le cou de Dovolonia et rentra avec elle dans la maison sans songer davantage à cet incident. La jeune fille se retira dans le réduit qu'elle occupait à côté de la grande salle basse où la famille se tenait d'ordinaire. Elle s'assit sur le bord de sa couchette et demeura longtemps, la tête dans ses mains, en proie à une souffrance aiguë. Ainsi, elle n'était qu'une étrangère chez Rigardeau. Dobronia, Ino, Marouchia lui appartenaient. Il comptait dans sa vie, il faisait son bonheur. Marangella et le valet de ferme même étaient pour lui des êtres familiers auxquels il tenait, et pourtant, la petite servante n'avait pour lui que tout juste l'affection qu'il fallait. Elle le trouvait trop sévère et trop exact, mais on recevait chez lui une bonne nourriture, il était généreux et payait bien, bon, cela pouvait aller. Et le maître l'appelait quelquefois « ma fille » et lui montrait un peu de l'autorité d'un père. Ino et Marouchia l'aimaient bien, il est vrai, mais il lui faisait très souvent de la peine et ne comprenait pas rien un bonheur qui leur paraissait tout naturel, tandis qu'elle, Éminet, elle qui eût donné sa vie pour lui, qui, sur un signe de lui, eût entrepris les plus rudes et les plus vils travaux, qui, s'il eût demandé, se fût privé de boire, de dormir et de manger, elle n'était pour lui qu'une étrangère. Depuis ce jour, la jeune fille devint plus sombre, plus renfermée. Elle s'efforçait bien, comme avant, d'être utile, mais elle se dérobait aux remerciements. Le soir, elle ne se mêlait plus jamais au groupe joyeux formé par Rigardeau et sa famille. Tapie dans l'ombre, elle dardait sur eux son regard étincelant et doux. Des larmes ardentes montaient à ses yeux. « Je ne suis rien pour lui, disait-elle. Ni son épouse, ni sa fille, ni sa sœur, ni sa servante. Rien, rien. » Les premiers jours, Domirji, étonné de l'avoir isolée en son coin, l'appelait. Alors elle oubliait pendant un instant ses tristes pensées et accourait recevoir une caresse, une bonne parole. Puis, si le lendemain le maître passait distraitement à côté d'elle, sans même s'apercevoir de sa présence, les idées noires revenaient, elle s'accusait elle-même. « C'est bien ma faute, pourquoi m'aimerait-il ? Je n'ai rien su faire de particulier pour lui prouver mon affection. Et pourtant, sur la terre, est-il quelqu'un qui puisse l'aimer plus que moi ? Il est bon à mon égard, parce qu'il a l'habitude de l'être envers chacun. Mais il le dit. Je suis l'étrangère ici. Oh, étrangère aujourd'hui, étrangère demain, étrangère toujours. » Incapable de se contenir plus longtemps, elle se confia une fois au pope qui l'instruisait. C'était un homme déjà fort âgé, qui avait toujours vécu paisiblement et sagement, sans rêves inutiles, d'un naturel fort calme et totalement dépourvu d'imagination,
Il ne comprit rien au désespoir des Minets. « Mon ami, tu es malade, lui dit-il. Travaille beaucoup, fatigue ton corps, cela rendra la santé à ton esprit. Lorsque par ton baptême tu seras entré dans notre sainte église, on te trouvera un beau et bon mari avec lequel tu oublieras bien vite toutes les bizarreries que je viens d'entendre. » Éminet rentra chez Rigardeau, plus sombre et plus perplexe que jamais. Son cœur était près d'éclater, elle sentait qu'il lui fallait agir, faire quelque chose de décisif, mais quoi? Elle n'en savait absolument rien. Elle était seulement sûre que cette situation ne durerait pas. En rentrant, elle trouva Doblonia sur le seuil de la porte. « Qu'y a-t-il, Éminet? Tu me sembles toute triste. »« Rien, rien, » répondit-elle précipitamment. Puis, sentant qu'il lui fallait absolument, d'une manière ou d'une autre, donner libre cours aux violentes sensations qui remplissaient son âme, elle noua ses bras au cou de Dobrovnia. Celle-ci riait. « Mais tu m'étouffes, petite folle, voyons, qu'est-ce qu'il y a ?» Éminet s'était un peu calmée, elle sourit. « Mais je vous aime tant, » dit-elle simplement. La jeune femme sépara les mains étroitement jointes d'Éminet et posant ses lèvres sur le beau front pâle, elle murmura « Enfant, va !» Rigardeau rentra tard ce soir-là, des affaires diverses l'avaient retenu toute la journée hors de chez lui. Doblonia l'attendait près du foyer où deux grosses bûches flambaient avec un pétillement réjouissant. Les enfants babillaient au pied de leur mère. Quand Domirji entra, il les embrassa tous avec tendresse, puis s'assit à côté de sa femme, et tous deux se mirent à causer des occupations de la journée. Éminet était là dans l'ombre, et retenait son souffle. N'aurait-il pas un mot pour elle? Mais Rigardeau, accoutumé à ne pas la voir assise dans le cercle de famille, et absorbé par son récit, ne songea point à la jeune fille. Doblonia riait en plongeant ses doux yeux bleus dans le regard aimant et profond de son mari. De temps en temps, les petits se hissaient sur la pointe du pied pour dérober un baiser à leur père. Le chien appuyait son long museau sur les genoux de son maître. Même les domestiques, assis un peu plus loin, semblaient prendre un joyeux intérêt à cette scène d'intérieur. Éminet se retirait toujours plus dans l'obscurité, une douleur aiguë consumait tout son être. Ce n'était certes point de la jalousie, car elle aimait Doblonia, et les enfants de toute l'affection qui lui laissait son culte pour Rigardeau. Et si ces êtres chéris eussent été malheureux et en danger, elle aurait fait l'impossible pour leur rendre le bonheur. Mais bien plus tôt, c'était l'exaltation d'une âme passionnée et brûlante de reconnaissance qui ne sait où se croit inutile à son bienfaiteur. Elle prit une résolution suprême. « Je partirai. Ma présence ici est plutôt un embarras qu'un plaisir pour lui. Mieux vaut m'enfuir et le quitter. Au jour du malheur, je reviendrai, je le sauverai, et peut-être qu'alors je deviendrai quelque chose pour lui. » Peut-être qu'alors il tiendra à moi, ne fût-ce que de la façon dont il tient à ce chien fidèle qu'il caresse d'une main distraite. Demain soir, lorsqu'il rentrera, j'aurai abandonné son toit pour longtemps, peut-être, Dieu le veuille, car je n'y reviendrai qu'avec l'adversité. Puis elle se mit à songer à ce qu'elle ferait loin de lui, quand elle ne verrait plus sa figure chérie, quand cette voix sonore ne prononcerait plus son nom, quand ses yeux graves et bons ne rencontreraient plus les siens, et quand de longues années s'écouleraient peut-être avant que les événements la ramenassent auprès de lui. Alors ce fut comme un effondrement dans son cœur, un affreux sentiment de vide l'envahit tout entière, et incapable de retenir sa douleur plus longtemps, elle ferma les yeux et éclata en sanglots. Rigardeau et Doblonia se levèrent brusquement et coururent à la jeune fille. Elle était couchée à terre, le visage enfoncé dans ses mains, et continuait de pleurer avec une violence effrayante. C'est qu'hélas, chaque mot de consolation prononcé par cette voix adorée lui rappelait qu'elle allait partir le lendemain peut-être pour toujours. Chaque caresse de son bienfaiteur pouvait être la dernière. Rien ne put la consoler. Lassés enfin, Rigardo et Dobronia la quittèrent, espérant que la nuit la calmerait et qu'elle s'expliquerait le lendemain. Mais Éminet ne dormit pas. Lorsqu'elle n'eut plus de larmes, elle recommença à songer aux suites de son projet. L'idée de rester ne lui vint pas. « Bon, je suis inutile ici, disait-elle. Je ne reparaîtrai que lorsqu'il aura besoin de moi. » Le lendemain matin, Rigardo appela Éminet. Elle le trouva assis près de la fenêtre, occupé à tailler un sifflet de bois destiné sans doute à Ino. Il avait l'air plus sévère que de coutume. « Mais que s'est-il passé hier soir, Éminet? Il faut tout me dire. Quelqu'un t'aurait-il chagriné, et les enfants peut-être? Malangella, es-tu malheureuse avec nous ?» Elle l'enveloppait d'un regard brûlant. « Oh, maître, je t'avais bien averti en me recueillant. C'est la tristesse et les pleurs que tu fis entrer chez toi. Pardonne-moi, je ne puis autrement. » Rigardo fut effrayé du désespoir peint sur le visage de sa protégée. Il lui prit les mains. « Mais tu me fais peur, Éminet. Et jure-moi que tu ne seras plus jamais de trouver la mort, comme le soir où je t'ai recueilli. » Elle se redressa avec un sourire étranger sur les lèvres. « Ne crains rien, maître. Oh, je ne songe plus à cela maintenant. Je veux vivre, il faut que je vive. » Rigardo l'examinait avec surprise. Il reprit d'une voix caressante. « Mais ne me révéleras-tu pas ce qui t'attristait hier soir, mon enfant ?» Elle resta muette. Il s'impatienta, se leva brusquement et tendit la main pour saisir le sifflet de bois qu'il avait posé sur la table. « La jeune fille chancela. Donne-le-moi. » Domirji sourit en haussant les épaules. Elle lui tendit l'objet demandé en lui disant « Bon, mais tu pars trop enfant, Éminet. » Puis il sortit en chantonnant. La jeune turque resta un instant immobile en le suivant des yeux. Lorsqu'il eut disparu, « Adieu, adieu » murmura-t-elle dans un sanglot. Et elle baisait avec passion l'instrument inachevé. Tout l'après-midi, elle aida Dobronia. Jamais elle n'avait été si douce, si affectueuse. Ino et Maruccia semblaient pressentir son départ. Ils s'attachaient à elle et ne voulaient pas la quitter. « Tu dois être là, Séminet, repose-toi, » dit enfin la jeune femme. « Tu as travaillé comme une esclave. C'est assez, mon enfant. » Éminet s'arrêta. « Oui, vraiment, oui, je crois que je suis fatigué. Je vais aller m'asseoir un instant. » Sa voix était rauque et sonnait étrangement. Ses yeux avaient des reflets métalliques. Elle s'approcha de Dobrovnia et l'embrassa. Celle-ci tressaillit. « Mais ne me regarde pas ainsi, Éminet, tu me fais peur. » La Turque baissa les yeux. Puis elle prit dans ses bras les têtes bouclées des petits et les serra avec force contre elle. Maruccia se mit à pleurer. Éminet se redressa. « Même mes caresses leur font mal, » se disait-elle en gagnant son réduit. La nuit était venue. La grande cuisine se trouvait solitaire. Dobronia et les enfants faisaient un tour à l'écurie. Malangella donnait à manger aux bêtes. Éminet sortit de sa chambrette. Elle avait revêtu les habits qu'elle portait lors de son arrivée chez Rigardo. Elle ne voulait rien garder de ce qui appartenait à son bienfaiteur. Elle franchit le seuil de la maison et se glissa dehors. Il faisait froid. Elle frissonna et alla se blottir à quelque distance sous un hangar. De là, elle pouvait encore apercevoir la demeure hospitalière qu'elle venait de quitter. Doblonia rentra et prépara le souper. Sa voix douce répondait au babil des petits. Bientôt un pas joyeux retentit. Le cœur de la pauvre enfant battait à se rompre. C'était lui. S'apercevrait-il qu'elle était loin? La porte s'ouvrit, se referma, puis se rouvrit soudain, et la haute silhouette de Rigardo apparut en sombre sur le fond clair de la salle. « Éminet, Éminet » cria-t-il, « où es-tu ? » Elle fit un mouvement comme pour répondre, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. La porte se referma, et la jeune fille, s'élançant au loin, eut bientôt disparu dans l'obscurité croissante.